Vous écoutez
RMC.
RMC.
Le temps, c'est un truc qu'on n'a pas. Même le temps n'a pas le temps pour le temps.
Si je peux me permettre, tu sais pas où tu seras dans 3 ans. Moi, je sais pas. Peut-être toi aussi, mais moi, je sais pas.
Le temps ne s'arrête pas. Là, j'arrête ma montre. Mais le temps, il continue.
Le futur a montré certaines choses.
J'ai arrêté le temps de ma montre, mais pas le temps.
Tu peux faire certaines erreurs dans le passé que tu fais plus dans le futur.
Le temps n'a pas de temps, mais il faut du temps.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous. L'after continue évidemment jusqu'à minuit. Nous sommes en direct sur RMC, nous sommes en direct sur Afterfoot TV, nous sommes en direct sur la chaîne YouTube de l'after. Bref, on est en direct partout dans l'after, toujours première radio de France, bien sûr, le soir. Et Kevin Diaz est là. Salut Kevin.
Salut à tous.
Maxime Chalot, salut Maxime.
Salut à tous.
Et David Guzman, David, bonsoir.
Salut Gilbert, salut à tous.
Donc le directeur sportif, un ancien joueur professionnel, futur...
Directeur sportif.
Futur directeur sportif et un banquier qui ne sera sans doute jamais directeur sportif.
On ne sait pas.
Pourquoi tu me fais des efforts ?
On sait. Pierre Sage, en fait, il donne aucune leçon. Ouais, on ferme des portes.
Ok. Bon, souvent les banquiers deviennent présidents, pas forcément directeur.
Ouais, entraîneur. Mauricio Sarri était banquier. Ouais,
souvent les banquiers restent banquiers. C'est les mauvais banquiers qui peuvent devenir directeur sportif. Non ?
Ou les mauvais directeurs sportifs qui peuvent devenir banquiers.
Bon, l'événement ce soir dans l'after, c'est la fin des championnats. Championnat anglais, championnat italien qui se termine tout à l'heure de 23h à minuit. On analysera les matchs du jour. On fera un premier bilan à chaud avec Julien Laurence, Daniel Emanoussia. C'est passé beaucoup de choses en Angleterre cet après-midi. Chelsea qui flop, Sunderland en Coupe d'Europe et tout le reste. Plein de gens qui font leurs adieux, des célébrations, des déceptions. Donc on fera le point tout à l'heure. Avant cela, nous allons parler de l'homme du week-end, Pierre Sage, vainqueur de la Coupe de France avec Lens. Il sera d'ailleurs demain soir dans l'after, Pierre Sage. Pierre Sage qui a fait toutes les émissions foot du week-end. Hein. Voilà, là, il lui manque silence, ça pousse. Et il aura fait un grand chelem.
Maternel aussi, je crois.
Voilà. Mais il fera l'after demain soir, bien sûr. Va-t-il changer les mentalités dans le foot français, Pierre Sage? Sa réussite va-t-elle changer les mentalités? On va en débattre dans quelques instants. Et puis David veut revenir sur l'OM avec quelques jours de recul. La saison de l'OM et la gestion des médias qui apparemment a quand même bien infusé le vestiaire. Et puis l'actu du jour, évidemment. Alors dans l'actu du jour, il y a un match cet après-midi qui est passé un peu inaperçu, mais sachez que Laval reste en Ligue 2. Laval en barrage a battu Rouen 1-0. Rouen donc ne montera pas en Ligue 2 et reste en Ligue 3. Un match qui était sur RMC cet après-midi.
Je l'ai commenté.
Oui, j'ai entendu. J'ai vu que tu étais à bloc sur Rouen.
J'étais pas plus pro Rouen que pro Laval, mais.
Encore heureux. Commentateur, tu dois être neutre. Hein. Enfin, je sais pas.
Ouais, c'est vrai. Bah, j'ai été neutre.
T'as été commentateur, toi, Kevin.
Moi, je suis absolument pas neutre.
En tout cas, Laval a gagné et Laval reste.
Attendez, on en reparle dans quelques instants tout de suite. Jean-Luc Roy est là, car il y a un Grand Prix ce soir dans l'after. Grand Prix du Canada. Jean-Luc, le départ est imminent.
Absolument. Ça part maintenant, Gilbert. Là, allumage des feux. À l'extinction, on est parti pour 70 tours de ce Grand Prix avec des conditions météo extrêmement incertaines. Je n'ai jamais vu une grille avec autant de panachage de pneumatiques. Les deux hommes sur la première ligne, donc les Mercedes. Mercedes A, alors on avorte le départ là. Il y a un problème quelque part, justement, peut-être Wires Control, on accorde un tour de formation supplémentaire pour les raisons que j'évoquais. Alors apparemment, l'un des pilotes a calé, il semblerait que ce soit une Racing Bull du côté gauche, ça peut être Isaac Hadjar, malheureusement, Arvid Lilleblad qui a calé sur la ligne de départ. Donc j'ai le temps de te parler des pneus parce que c'est absolument fondamental.
Kevin Diaz dans le parking RMC.
C'est-à-dire que là, une partie de la piste est humide, l'autre partie est sèche. Donc les pilotes ont le choix de partir soit avec des pneus slick, donc les pneus lisses pour le sec, soit les pneus tendres, ce que la majorité du plateau a choisi, soit des pneus médiums. Et une partie d'entre eux, c'est-à-dire exactement 5 d'entre eux, ont choisi des pneumatiques intermédiaires, donc des pneumatiques normalement pour piste humide. Et là effectivement on assiste à ce problème malheureusement qui affecte Arvid Lindblad. Il devait partir 9e sur la grille, c'est la raison pour laquelle en fait on a annulé ce départ. On a donc quelques minutes, Gilbert, le temps de voir si on évacue la monoplace ou si on peut la remettre en route là, mais je crains qu'il parte des stands.
On revient vers toi. Maxime, tu connais Jean-Luc?
J'étais avec lui cet après-midi.
Un point commun, c'est les États-Unis.
Ah d'accord, je pensais la Formule 1 parce que question produit, je suis moyen.
Tu sais que ce gars est une légende.
Ah ben je le sais bien.
Vous allez me gêner, mais là,
t'as du très très lourd. T'as du très très lourd. Combien de Paris-Dakar?
14.
Combien de Grand Prix?
Ah non, des Grands Prix, je n'en ai pas fait, mais j'ai fait le 24 heures du monde. Ah, les commentaires.
Ah, 24 heures du monde, écoute, t'as fait le 24
heures du monde. Oui, ça, je les ai fait en tant que pilote. Mais les commentaires de Grands Prix, écoute, avec Patrick Tambay, on avait arrêté de compter à 350. Là, je dois en être maintenant à 500 ou 550, voilà. Je sais.
Voilà, ça, c'est du lourd.
Mais, si j'arrive à 500 after.
Ben voilà. Il y a pas de raison. On évacue, par parenthèse, la monoplace de David Lindblad. Donc, ce qui donne encore quelques tours de reconnaissance supplémentaires.
Donc, lui, il est dû pour rien, lui, en fait.
Ben là, ils sont obligés de remonter toute la voie des stands, tu vois, parce que manifestement, il n'y a pas de possibilité au bout de la grille. Donc, on remonte en reculant la voiture. Les commissaires font le boulot et on va la rentrer. Donc, ça nous laisse encore un petit peu de temps. Oui, okay. Je pense.
Bon, bah, écoute, on revient pour toi pour
je
le nouveau départ.
Piste est libre. Voilà.
Ça marche. Donc, Rouen, qui c'est qui était à fond sur Rouen là? C'est Kevin, c'est toi, hein?
Non.
Ah non, attends, je veux qu'il y en avait un qui disait
Ouais.
D'accord.
Tu sais très bien.
Oui, je sais très bien.
Même si Rouen, c'est un très très beau club amateur, hein, faut quand même le dire.
C'est un ancien club pro surtout. Un club historique du foot français.
Dans une situation particulière.
Dieu chance,
ils partagent leurs installations avec un autre club de la.
Du coin.
QRM.
Donc ils monteront pas cette année. Et puis alors il y a aussi la finale retour de la Ligue des Champions africaine. Sachez que le club de Rabat, le Phare, mène 1-0 face au Mamelodi, club sud-africain. Il y a eu 1-0 à l'aller pour les Sud-Africains. Donc pour l'instant égalité parfaite. On est à la mi-temps. Et puis il y a le tennis évidemment. Eric Salio, Roland Garros, les célèbres Night Session d'Eric Salio, qui vont s'enchaîner dans l'after pendant 15 jours. Et c'est parti ce soir avec Djokovic sur le court. Mon cher Eric, salut.
Salut Gilbert, salut à tous. Ouais, il n'y aura pas des Night Sessions pendant toute la quinzaine, Gilbert. Il n'y en a que 11 ou 12, je crois. Mais c'est déjà beaucoup. 1-7-0 pour le jeune français, le jeune lyonnais, le géant, puisqu'il mesure 2m03, Giovanni Petit Péricard, 7-5.
C'est un Gianni qui ressemblait à Wagno Eloi. Qu'on salue d'ailleurs.
Ah, tu as cacassé, accepté. Voilà. Et 5 jeux partout dans la deuxième manche. Le français a sauvé beaucoup de balles de break.
Sur blonde.
Pour l'instant, ça tient.
Voilà, tu lui mets un maillot de Monaco ou de Lens, maillot Chopi. Ouais, hop, ça y est, c'est pas, il peut le faire ou pas?
Ah bah écoute, il faudrait qu'il gagne le deuxième au tie-break peut-être, et là on pourrait commencer à rêver. Il y a deux autres Français sur les cours, enfin même trois. Valentin Royer met 2-7-0 face à Adelien le Bolivien. Pierre Gerber est mené une manche à zéro par Sonego, et Xenia Efremova, la petite pépite qui a 17 ans, a perdu la première manche contre une Roumaine, 6-3.
Très bien, à tout à l'heure. Tu nous appelles dès qu'il se passe un truc, dès qu'il y a quelque chose d'important au programme. La F1, on est toujours dans les tours de chauffe.
On est dans le tour de formation. Maintenant, on a évacué la monoplace de.
On dit plus tour de chauffe.
Non, là, c'est le tour de formation, si tu veux. Voilà, ça s'appelle comme ça. C'est avant la mise en grille, parce qu'ils se forment, si tu veux, pour se positionner
dans
sur leur grille de départ. Voilà. Donc, il y en a un qui a de la chance, c'est Hülkenberg, puisqu'il va avoir une place libre devant lui. Donc, à mon avis, ça va lui libérer un peu l'espace et lui donner de l'air. Et comme on l'aperçoit, hein, la piste, elle est humide par endroits, elle est sèche à d'autres. Donc, je peux te dire que ceux qui ont opté pour les pneumatiques intermédiaires vont devoir préserver les pneumatiques, parce qu'ils vont
sur l'île, sur comment elle s'appelle, l'île à Montréal, là.
C'est l'île l'île Notre-Dame, au milieu du fleuve Saint-Laurent.
Exactement.
C'est là qu'avait eu lieu l'exposition universelle de 67. Et ils l'ont, parce que c'est une île artificielle, ça, au milieu du fleuve.
Okay. À Montréal, c'est très sympa l'été, mais il y a des moustiques gros comme des poulets.
C'est moins sympa l'hiver. Hein.
J'ai pas
moins sympa l'hiver.
Moi, j'ai vu au Québec l'hiver, c'est violent.
Moi, j'ai joué contre Montréal l'hiver, c'était pas fun.
Contre l'impact,
ouais.
Combien
Au
Molson Stadium, t'as
joué? Ouais, il devait faire moins 10, moins 15, c'était horrible.
Ouais.
Horrible, ouais. Mais bon.
Et tu sais, c'était Gilles Vigneault, le chanteur, qui disait « Mon pays, c'est l'hiver ». Donc,
C'est une dion aussi.
Bon, du coup, je ne sais pas si on démarre notre débat sage, parce que vu que la F1 va démarrer, là...
Oui, là, ils vont se mettre en grille. Voilà. Va partir. Hein. Le pauvre Lindblad, lui, il ne partira pas, apparemment, parce que c'est un problème qu'on ne peut pas résoudre.
Donc, il est venu pour rien, ça, c'est magnifique. Bah,
malheureusement, ouais, c'est très dommage, parce que c'est un jeune pilote britannique de 18 ans, extrêmement talentueux. Donc voilà.
Attention, messieurs, si vous ne connaissez pas un départ de Formule 1 avec Jean-Luc Roy, c'est maintenant.
Ben voilà, c'est maintenant. Donc on va s'y mobiliser. Donc avec, en première ligne, on a le temps de le rappeler, les deux Mercedes de Russell et Antonelli. On rappelle que Russell avait signé la pole et gagné le premier Grand Prix en Australie. Ensuite, Antonelli a gagné les trois suivants et donc réussi un exploit unique dans l'histoire de la Formule 1, puisque jamais un pilote n'avait signé sa première pole, plus les deux suivantes et les trois victoires qui vont avec. Derrière, on a les Papaya, donc les McLaren, qui vont partir avec des pneumatiques intermédiaires. intermédiaire. Donc je le disais, il va falloir ménager ces pneumatiques qui vont se dégrader dans la partie sèche de la piste. Troisième ligne avec Hamilton et Verstappen. Quatrième avec Isaac Hadjar, le français, avec la Red Bull, et Charles Leclerc avec la Ferrari. En cinquième ligne, eh bien, on n'aura pas Lindblad, puisqu'on vient de le rentrer au stand, mais il y aura Colapinto avec la première des Alpines, et puis Hülkenberg, Lawson, Bortoleto, Gasly, Sainz, Berman. Voilà, on allume les feux et on est parti. Alors est-ce que il va y avoir une friction entre les deux pilotes Mercedes? Attention, avec un excellent départ derrière depuis Lando Norris. Oui, il a pris l'avantage, Lando Norris, qui a réussi à se glisser au détriment des deux Mercedes qui s'observaient. Eh bien, excellent départ de Lando Norris, le champion du monde en titre, avec le numéro 1. On va aborder ici le virage déjà numéro 3, un virage très délicat, très dangereux, avec un mur, puisque c'est là que Jean-Pierre Jabouille s'était cassé les deux jambes ici en 81. Ça a même mis fin à sa carrière de pilote de Formule 1. Les enchaînements maintenant avec, je le répète, des montes pneumatiques extrêmement différentes pour les pilotes, des pneumatiques soft. Oulala, on allume derrière, c'est Pierre Gasly apparemment qui tente une remontée là au freinage. Ça a l'air de se passer bien, en tout cas jusque là pas de friction. On est parti, on termine le tour ou pas, Gilbert?
Non, on va s'arrêter là.
Alors on va s'arrêter là. Et ben donc pour le moment, on a donc
Lando Norris. Ça a permis à Kevin Diaz d'apprendre l'existence de Jean-Pierre Jabouille, ouais, parce qu'il l'avait oublié.
À tout le monde.
Vous ne connaissiez pas? Bah de nous au moins quand même.
Ah, si, un pilote français, Jean-Pierre Jabouille, qui a été le premier vainqueur avec une Renault Turbo à Dijon. Ça vous parle pas?
Non.
Non, par contre, on est
du Grand Prix de Dijon, pour se souvenir pas.
C'était en 1979.
Paul Belmondo, on était pas nés. Ouais, d'accord, mais là c'est.
Oui, bah oui.
JPJ, non.
Bon, il y a aussi la dernière journée du championnat d'Italie en cours, hein, avec un enjeu notamment pour la Juve, pour la Ligue des Champions. Pour l'instant, ça part mal parce qu'il y a 0-0 entre Torino et la Juve dans le derby de Turin, alors que Côme, concurrent direct, mène 2-1 avec Cremonese. Je vous tiens informé de l'évolution du débat. Bon, Pierre Sage, et ensuite on retournera à la F1 et au tennis, évidemment. Pierre Sage va-t-il changer les mentalités? Pourquoi est-ce qu'on pose cette question, les gars? Vous allez rentrer dans le détail, parce que c'est un coach. Il faut le rappeler, même si maintenant, ça fait quelques mois qu'il est bien installé dans le paysage du foot français, qui vient un peu de nulle part, qui a eu un parcours atypique, monde amateur, adjoint, il est monté progressivement, et puis il y a eu comme ça une révélation au plus haut niveau assez inattendue pour lui. Donc, ça peut ouvrir un peu les chakras de certains dirigeants qui peuvent donner leur chance à des personnes de son profil, qui sont passées par des petites divisions, qui n'ont pas forcément les diplômes requis, qui n'ont pas été des joueurs exceptionnels à haut niveau. Et puis il y a son management, enfin il y a plein de choses dans le style Pierre Sage, le parcours de Pierre Sage, qui fait que voilà, on va dire qu'il y a un vent d'air frais, il symbolise un vent d'air frais dans le football français. Est-ce que vous pensez que sa réussite peut changer un peu les mentalités?
Déjà, moi je suis pas forcément d'accord là. Tu nous le vends de manière à ce qu'il vient d'arriver un peu de nulle part. Alors en effet, c'est vrai, tu l'as dit, par rapport à son passif et son CV, c'est pas forcément quelqu'un qui a une grande carrière de footballeur, c'est pas quelqu'un qui avait énormément d'années derrière lui en tant qu'entraîneur, mais bon, faut pas oublier ce qu'il a fait à Lyon, faut pas oublier que il était quand même dans le monde professionnel. Mais j'entends ce
quand
que tu veux dire.
Quand il arrive à Lyon et il est au centre de formation, bon, c'est
mais
pas.
Mais en fait, ça me paraît presque logique. Il arrive à Lyon, centre de formation, et récupère l'OL dans un cas de figure qui était quand même assez incroyable, parce que l'OL était relégable et on pensait vraiment pas qu'il ferait cette saison-là. D'ailleurs, il les a sauvés quand même d'une une situation sacrément compliquée. Derrière, c'est la suite logique en fait. Ça a fonctionné à Lyon. Il est mis dehors un peu comme un malpropre par John Textor, qui avait déjà des vues sur Fonseca, et il arrive à Lens. Et on connaît la suite. Moi, j'ai envie de mettre en avant, c'est justement, c'est parler du personnage en tant que tel, c'est-à-dire en tant que Français, c'est-à-dire un entraîneur qui coûte pas forcément très très cher. En tout cas, si tu compares avec un entraîneur étranger, en fait, on faisait le parallèle avec l'Olympique de Marseille. Quel serait le meilleur profil pour un club comme l'Olympique de Marseille? Là, on est sur Lens actuellement, mais c'est vrai que quand je vois Pierre Sage avec tout ce qu'il dégage en fait, cette humilité, pour moi, ça fonctionne super bien et ça reflète exactement la mentalité du Racing Club de Lens. Donc voilà. Je suis d'accord avec toi par rapport au fait qu'en effet, il n'a pas un CV super, super incroyable, mais quand tu regardes un petit peu le contexte, finalement, je trouve qu'il est à sa place.
Ouais, mais un CV pas super incroyable, parce que dans le monde professionnel, mais si tu regardes en fait le nombre de sessions d'entraînement qu'il a dirigées par rapport au nombre de sessions d'entraînement que la plupart des entraîneurs de Ligue 1 ont dirigées, les siennes sont certainement supérieures. Moi, ce qui me dérange, c'est encore cette barrière à l'entrée et cette fichue barrière du BEPF. Et qui est... D'ailleurs, on en parlait off avec Kevin. Est-ce que les dirigeants doivent s'intéresser à ces profils? Oui, mille fois oui. Est-ce qu'il y a des barrières pour qu'ils s'intéressent à ces profils? Oui, mille fois oui. Les promotions du BEPF sont très limitées. chaque saison, il y a un vrai numerus clausus, il y a des difficultés, il y a des barrières à l'entrée. Je crois que c'est 26% le nombre en fait de gens qui veulent entrer au BEPF et qui sont finalement reçus. C'est un certain coût, c'est 27 000 euros pour passer le BEPF. Donc quelqu'un qui n'a pas une carrière professionnelle, qui n'a pas un club, qui a les moyens financiers pour lui financer la formation, c'est quelque chose de très difficile. Et surtout,
ça, c'est pareil, pour les études, c'est pareil.
Non mais attends. Et surtout, le fait de ne pas avoir un entraîneur diplômé, on te sanctionne en te faisant payer une amende qui est relativement conséquente par match. Donc en fait, moi, que ce genre de profil abonde la Ligue 1 et arrive de plus en plus, bien évidemment, mais plus que la mentalité des dirigeants, la première chose à réformer, c'est le diplôme d'entraîneur, l'accès au diplôme d'entraîneur, et d'une tradition très française, cette folie du diplôme, ce besoin d'avoir un diplôme, ce besoin de se rassurer avec un diplôme. Alors certes, il y a la formation VAE avec l'équivalence, mais
c'est d'ailleurs comme ça qu'il l'a eu, mais ce
sectarisme académique laisse beaucoup trop de gens de côté sur le banc de notre...
Là, pour le coup, là, c'est un sujet que je maîtrise assez bien, puisque j'ai dû aussi passer des diplômes d'entraîneur, et je dois dire que les diplômes en France, ils sont quand même très structurants, très intéressants. Alors bien sûr que la FFF, que ce soit le BEPF, je connais pas, mais en tout cas pour le DES, pour le BEF ou même pour le BMF, qui sont les quatre niveaux de diplôme aujourd'hui, même s'ils ont été réformés il y a quelques années maintenant, ça reste quand même des lieux d'échange, des lieux de rencontre, que ce soit avec les formateurs, avec les autres stagiaires. Aujourd'hui, j'ai une très bonne relation avec beaucoup des 70 personnes avec qui j'ai passé le diplôme il y a quelques années. Donc ceci étant dit, c'est pas si facile, hein, je pense, pour la FFF de faire le tri. Toi, t'as dit qu'il y avait pas assez de place de distiller, mais il y a pas non plus assez de place de proposer par la FIFA. Faut savoir que chaque pays n'a le droit qu'à 10 places par an. Je discutais avec un entraîneur portugais il y a quelques jours qui me disait qu'au Portugal c'est pareil. Eux, ils font ça sur 2 ans. C'est ce que faisait la France aussi avant. Donc, mais eux, ils ont 20 places tous les 2 ans. Donc nous, on a 10 places par an, mais c'est le même principe. Donc il y a quand même cet entonnoir qui fait que il est difficile de passer ce diplôme pro pour tout le monde, que ce soit pour les anciens joueurs.
Il y a plus d'entraîneurs au chômage que d'entraîneurs qui bossent, faut le rappeler.
Bien sûr. Aujourd'hui, là où est le gros point de bascule, c'est que, comme dirait Kylian Mbappé, je ne suis pas toujours d'accord avec lui, mais le football, il a changé. Et aujourd'hui, être entraîneur de football, c'est être un chef d'entreprise d'une PME, une PME en tout cas dans un club professionnel, d'une dizaine de salariés uniquement pour le staff professionnel. Et je te parle pas de la réserve, je te parle pas des kinés qui des fois, nous on a joué contre Lille en Coupe de France en 32e de finale, c'est une armée. Faut savoir que c'est une armée qui arrive avec des caisses et des caisses et des caisses et des gens et de la sécurité. Et donc c'est quand même aujourd'hui, quand tu es entraîneur, quand tu es manager de très haut niveau, c'est pas n'importe qui peut le faire, et il faut avoir une certaine expérience, peu importe que ce qu'elle soit du très haut niveau, de moyen niveau, mais en tout cas de manager une équipe. Ça, c'est un. Après, deux, au niveau des profils, bien sûr que pendant des années, le football français et d'autres footballs, le football portugais y compris, ont favorisé les anciens joueurs. Pourquoi ? Ça n'est pas uniquement de la faute des fédérations, c'est aussi de la faute des dirigeants de clubs qui disaient « Ah oui, mais lui, il a joué où ?» Mais on s'en fout. Un joueur de foot n'est pas un entraîneur. Un entraîneur n'est pas un directeur. Un directeur n'est pas un consultant. N'est pas autre chose, tu vois. Donc chaque métier est différent. Bien sûr qu'il y a des passerelles. Bien sûr que l'expérience de joueur peut aider et joue. Mais ce n'est pas uniquement ce qui va te faire de toi un bon entraîneur. Donc aujourd'hui, ces passerelles, elles sont quand même plus fines qu'avant. Mais des Francaises, mais des Pierre Sage, il y en a beaucoup en France.
Énormément.
Je dis, il y en a énormément. Je dis pas qu'il y en a 250, non, mais il y en a des gens qui sont ultra compétents, qui sont pour certains aujourd'hui en poste, en Ligue 1, en Ligue 2, en National, en National 2, même en National 3, voire même peut-être en dessous, des futurs très bons entraîneurs. Encore faut-il qu'ils aient, comme n'importe quel joueur, comme les joueurs que j'ai croisés, moi, au Lusitanos, qui aujourd'hui vont jouer en Ligue 1 l'année prochaine, et j'en suis très fier. Mais peut-être que dans un autre contexte, eh ben, c'est un joueur qui serait resté en N2, qui ne serait jamais sorti. Donc, il y a aussi le facteur chance, réussite, réseau, être là au bon moment. Je dis tout ça parce que c'est vraiment beaucoup de facteurs. C'est pas uniquement la fédération, c'est pas uniquement les dirigeants, c'est pas uniquement le manque de formation, c'est beaucoup de facteurs qui font qu'aujourd'hui, il y a tellement de monde qui veulent vivre du football qu'il n'est pas facile de faire le tri, même quand tu es un dirigeant de football amateur.
Là, vous avez dévié un peu du cas Pierre Sage, on va y revenir dans quelques instants.
C'est exactement le cas Pierre Sage.
Non, mais, oui, mais là, c'était pas vraiment le sujet du débat.
C'est une conjonction de facteurs qui l'ont mis ici. Tout le monde critique Textor. Si sans Textor, il n'y a pas de Pierre Sage.
Oui,
sans un mec qui think out of the box. Voilà, il faut, penser en dehors de la boîte.
Sans grosso, il n'y a pas de Pierre Sage.
Faire monter des entraîneurs du centre de formation en équipe première, bon, s'il n'y a pas que Textor.
Franchement, personne ne l'avait vu.
Ah bon ?
Un directeur de centre qui devient entraîneur numéro 1.
Eric Salio nous appelle. Deuxième set pour Djokovic, Eric.
Oui, 7 jeux à 5 pour Novak Djokovic. On sentait venir. Et malheureusement, Giovanni Pici a craqué au plus mauvais moment. Djokovic qui a tendu l'oreille. Enfin, il a voulu que le public réagisse. Il a pris des sifflets. Un set partout, donc on va rester un petit peu plus tard que prévu.
Daniel est au stade ?
Ah, pardon ?
Daniel est au stade, donc.
Ah, mais bah, il va se régaler. qualification de Valentin Royer, 74e mondial, qui vient de battre le Bolivien Daniel. Et le vainqueur, Royer, affrontera le vainqueur de Petit Djokovic. Donc, si c'est Djokovic, ce serait une belle affiche. Si c'est Petit, ça veut dire qu'on aura un Français au troisième tour.
Il se passe un truc fou en Italie, les gars. Le Milan est en train de se faire dégager de la Ligue des Champions au profit de Côme. Parce que Milan, dans la dernière journée de Serie A, est en train d'être mené sur son terrain par Cagliari, c'est surprenant, mais c'est comme ça, 2-1 pour Cagliari pour l'instant, et donc Milan serait devancé et par Côme et par la Juve, et Côme pour l'instant virtuellement est en Ligue des Champions, ce qui serait quand même sacrée performance pour ce club qui n'existait pas au niveau italien il y a peu.
T'as investi beaucoup quand même.
On en parle tout à l'heure. Et on continue le débat sur Pierre Sage dans quelques secondes, sans oublier Jean-Luc Roy bien sûr, que l'on va voir juste après la pub.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Il est 22h22, l'after est là jusqu'à minuit avec Maxime Chalo, Kevin Diaz, David Glusman et les directs avant de continuer notre débat autour de Pierre Sage. Un point sur la F1, le Grand Prix du Canada, Jean-Luc.
Nous sommes dans le 10e tour de ce Grand Prix qui va en compter 70 et pour le moment eh bien, c'est toujours les Mercedes de Russell qui a pris l'avantage sur Antonelli puisque au moment du départ, eh bien, Antonelli avait pris l'avantage sur le Poleman. Russell a rétabli l'ordre à la mort du virage numéro 3 tout à l'heure, donc les deux Mercedes séparés par une petite seconde. Derrière, eh bien, à 3 secondes, on trouve Verstappen qui vient de prendre, lui, l'avantage sur Hamilton. Donc Verstappen, très belle remontée. Hein. On rappelle qu'il est parti 6e, il est 3e. Les deux Ferrari suivent, Hamilton 4e et Leclerc 5e. Hadjar est un très bon 6e devant Colapinto, Lawson et Berman. Du côté des autres Français, Gasly est dans les points, il est remonté 10e, il était parti 14. Et Ocon est 15e. Eh bien, tous ceux qui étaient partis en pneumatique intermédiaire, Gilbert, car tu vas me poser la question, ont dû s'arrêter immédiatement à l'issue du deuxième tour pour chausser les pneumatiques pour le sec. Ils sont tous équipés de soft ou de médium.
Donc c'est une mauvaise stratégie. Alors.
Mauvais choix. Très mauvaise stratégie. Ouais. Voilà.
Bon, il fallait essayer.
Il fallait une grenouille pour savoir.
Exactement. À tout à l'heure. Ça a bougé la finale de la Ligue des Champions africains à partout entre l'AS FAR et Mamelodi Sundowns. Donc pour l'instant, les Sud-Africains virtuellement à grand port de la Ligue des Champions reste une demi-heure à jouer. Bon, revenons à Pierre Sage, parce que Pierre Sage, il y a le parcours, il y a effectivement la question des diplômes, et puis il y a le style, le management, l'ouverture, Pierre Sage, les explications. Pierre Sage, tous les joueurs sont dithyrambiques le concernant, donc il n'y a pas que le parcours qui fait la différence avec lui, il y a aussi ce qu'il est et ce qu'il dégage.
Il est là aussi pour ça, hein, dans le sens où Pierre Sage, c'était un conférencier du football avant d'être entraîneur de très haut niveau. C'est quelqu'un qui est formateur, je regardais sa fiche, il a déjà été coordinateur sportif, recruteur, directeur technique, team manager,
Il a tout fait. Hein.
Il a été entraîneur adjoint, il est maintenant entraîneur numéro 1. C'est quand même quelqu'un qui a une très très grosse vision du panel des différents métiers dont je parlais aujourd'hui dans un staff technique, et ce qui lui permet surtout d'avoir l'expertise et aussi l'expérience du coup de ces différents postes. Et c'est pour ça que tu le vois, de toute façon, quand il parle, il est calme, il est posé.
Moi, c'est là qui m'a le plus impressionné.
C'est très fort.
Ça, et si je fais un peu le parallèle avec ce qui s'est passé avec l'Olympique de Marseille, où c'est vrai que dans la tempête, en règle générale, les gens ont eu tendance à un petit peu monter au créneau dans la presse. C'est vrai que Pierre Sage, il a toujours été très calme. Et on se souvient, quand il y avait ces deux défaites d'affilée, bah, il avait pris la parole, voilà, en expliquant un petit peu que le projet est resté le même et qu'il croyait à ses joueurs. Il y a juste uniquement à un moment donné quand il a fait rentrer ses remplaçants, rappelez-moi quel match, où est-ce qu'il a un petit peu...
C'était contre Brest, exactement.
Hein, quand il avait fait rentrer Sotoka, qu'il avait fait sortir à la mi-temps. Mais c'est vrai qu'en règle générale, Pierre Sage, il dégage quand même énormément d'humilité, énormément de sagesse. Non, mais
sur la pédagogie, pour reprendre ce que disait Gilbert, c'est vrai que c'est un tour de force dans la mesure où lui, il le dit d'ailleurs dans pas mal d'interviews, lui il venait de nulle part et il a dû arriver avec beaucoup d'humilité, beaucoup de force de conviction, beaucoup de matière aussi pour convaincre son vestiaire. Mais je pense qu'il colle bien à ce que les joueurs demandent. Je pense que les joueurs, quoi qu'on en pense, sont de plus en plus demandeurs de football, doivent être convaincus par un entraîneur, doivent être emmenés par un projet, ce que Rosenior par exemple n'a pas su faire à Chelsea. Et c'est là son point fort, dans le contenu, dans la force de conviction, dans la pédagogie. Je pense que c'est là où il arrive à emmener son groupe.
Il a pas dévié de sa ligne, c'est vrai. Après les résultats, on parlait pour lui, ça aide aussi, hein, à emmener un groupe avec toi quand tu sais que derrière tu gagnes, quand tu sais que tu fais une saison comme il a fait. Mais je suis d'accord avec toi par rapport à ça. C'est vrai qu'il avait ses idées et il est resté fidèle à lui-même.
Et souvent, moi je fais allez, je suis un peu taquin avec Didier Deschamps quand je dis que c'est un très bon sélectionneur. Je ne sais pas si c'est un bon entraîneur, mais dans entraîneur, il y a entraînement. Et ça, une chose est certaine, c'est que Pierre Sage aujourd'hui, c'est un grand entraîneur. C'est-à-dire un entraîneur, c'est quelqu'un qui va travailler à l'entraînement, qui va mettre en place, que ce soit des séances, que ce soit des schémas, que ce soit des exercices, des situations, tout ce que vous voulez, des jeux, qui vont être en lien avec son projet de jeu, en lien avec le plan de match. Et c'est ça qui doit être très fort. Moi, je ne l'ai pas vécu au quotidien, mais de ce que j'ai compris, c'est quand même quelqu'un qui maîtrise parfaitement la périodisation tactique, qui maîtrise parfaitement donc le fait de s'entraîner tous les jours avec le ballon, avec un sens commun, avec un but collectif, et surtout de travailler chaque minute de l'entraînement. Moi, ce que j'ai aussi appris, c'est qu'il y avait énormément d'intensité dans ces entraînements, très peu de pauses, donc un temps d'entraînement qui se rapproche du temps de match. Donc voilà, c'est aussi une science de l'entraînement qui est de très haut niveau.
C'est totalement minuté,
les joueurs peuvent boire très vite.
C'est vrai que ça se matérialise aussi avec l'évolution de certains joueurs. Je pense à Gagnou, je pense à Sangaré, même à Bulatovic qui a été intéressant quand Sangaré justement est parti à la CAN. C'est vrai que ça rejoint un peu ce que tu dis, Pierre Sage, le fait d'avoir eu plusieurs postes dans le football, dans l'industrie du foot, peut-être que ça lui donne aussi cette chance et cette opportunité de pouvoir être un vrai éducateur et faire évoluer aussi ces jeunes joueurs.
Concernant le contexte économique, fait que on pourrait aussi penser que le contexte économique, donc le manque d'argent dans le football français, puisse ouvrir les horizons des dirigeants, mais c'est aussi le revers de la médaille de se dire que les marges sont tellement infimes que est-ce que les dirigeants n'en veulent pas se recroqueviller sur leurs croyances et justement à ne pas vouloir prendre de risques. Des entraîneurs, à tort, hein, mais des entraîneurs qui auraient moins de bouteilles. On voit d'ailleurs que dès que les clubs sont en difficulté, ils se recroquevillent, ils retombent directement
sur des entraîneurs français.
Des entraîneurs qui leur donnent des garanties, des entraîneurs qui leur garantissent un plancher minimum. Ouais. Au lieu d'aller chercher le plafond, ils se satisfont d'un plancher minimum. Moi, j'ai un peu peur que le contexte économique, malheureusement, ne soit pas forcément propice à l'audace des dirigeants.
Ça dépend des dirigeants. Quand tu as des dirigeants étrangers, comme par hasard, ils ont souvent un entraîneur étranger, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas peur de prendre des risques, n'ont pas peur de prendre un jeune entraîneur. Et puis après, par contre, moi je le dis, les entraîneurs qui sont très compétents, qui sont des entraîneurs modernes, tu sais, que ce soit aux Pays-Bas ou même en Allemagne, Paulo me le dit aussi, on les appelle les laptop trainers, c'est-à-dire les entraîneurs avec ordinateur, contrairement aux anciens coachs qui avaient leur calepin, qui avaient leur carnet. Là, c'est des entraîneurs.
Il y a des nouveaux coachs sur les calepins. Rosenior et O'Neill, ils ont toujours un calepin.
Oui, derrière, t'inquiète pas que le calepin, ça finit sur une note et ça finit sur son Mac ou sur le PC, parce qu'aujourd'hui, c'est des entraîneurs qui sont capables, d'ailleurs, dans les formations, c'est aussi le cas, mais qui sont capables d'être analystes vidéo, qui sont capables de faire beaucoup de choses. Et dans la préparation des séances, tout ça, c'est informatisé, tout ça, c'est quand même avec les nouvelles technologies, que ce soit les kilomètres parcourus, que ce soit les GPS avec le tracking des positions médianes sur le terrain. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que aujourd'hui être entraîneur au très haut niveau, moi je pense qu'il y aura de moins en moins d'anciens joueurs. Il y aura de moins d'anciens joueurs. Et il y aura, en tout cas, d'anciens joueurs de très très haut niveau.
Bon, on a vu que ça a pas
qui
forcément
en plus gagnent tellement d'argent, ils n'ont absolument pas besoin de travailler. Tant mieux pour eux après leur carrière. En tout cas pour ceux qui auront bien géré leur pécule. Mais aujourd'hui, le métier d'entraîneur est tellement difficile, est tellement un métier exigeant que il y a de, moi je pense qu'il y aura de moins en moins d'anciens grands joueurs, en tout cas de très haut niveau, qui se dirigeront vers ce métier.
Concluons sur Pierre Sage avec Benjamin qui est là, supporter lensois. Salut Benjamin.
Bonsoir tout le monde.
Salut Benjamin, tu passes un bon week-end toi?
Bah oui, j'étais avec vous, donc j'étais content.
Ouais, voilà.
Bah, écoute, j'étais sur plateau, donc après j'étais au Stade de France, donc c'était magnifique.
Bah voilà, t'es un des hommes du week-end, Benjamin, parfait.
Ouais, et j'avais prédit le résultat 3-1, donc c'était parfait.
Bon. Là, on est sur Pierre Sage. Est-ce que Pierre Sage va changer un peu les mentalités dans le foot français, son parcours, sa façon de vivre le foot, de le transmettre? Qu'est-ce que t'en penses, toi?
Oui, moi je pense qu'il peut parce que les résultats sont pour lui. Et c'est un des rares entraîneurs qui a été capable de faire bouger le PSG, leur faire peur. Il a gagné la Coupe de France, chose que Lens n'avait jamais gagnée. Donc forcément, c'est un faire-valoir pour lui. Et du fait qu'il vienne du bas, entre guillemets, du centre de formation, c'est quelqu'un qui est quand même assez réservé, qui tape jamais dans les journaux. On voit très rarement Pierre Sage faire des déclarations tapageuses. C'est un bosseur et c'est quelqu'un qui, par son talent et par ses résultats, peut dire au club, au gros club, ah, vous avez vu ce monsieur-là? On le connaît pas, mais il a été concurrencé le PSG et il a gagné la coupe.
T'as vu qu'aujourd'hui, il a confirmé qu'il restait?
Oui, qu'il restait à Lens. C'est une très très bonne nouvelle.
Alors moi, excuse-moi d'être... on sait que le foot, il n'y a pas un rebondissement près. Donc...
Il va être taquin, tu vas être taquin là.
Non, aujourd'hui, il dit qu'il reste. Bon, maintenant...
Fou de partir alors qu'il vient de se qualifier en Champions League, non?
Bah, je sais pas, moi, si demain ou après-demain ou dans une semaine, il y a un gros club, plus gros que Lens qui le contacte.
Ça serait surprenant de sa part.
Non, mais je pense qu'il aura, c'est quelqu'un qui a une
parole. Est-ce que c'est pas mieux, parfois, en termes de stratégie de carrière, de partir quand t'es au sommet de ta gloire plutôt que de faire la saison de trop?
Ah, bah, c'est sûr que non, ça sent que la saison de trop, surtout si tu perds des joueurs, non?
Oui.
Il fait un travail, il veut pérenniser sa relation avec Lens. Et je pense qu'il veut, c'est son rêve. Il l'a dit, c'est son rêve de jouer la Ligue des Champions avec Lens. Donc maintenant qu'il l'a atteint, il va le vivre. Bon. Donc il ne peut pas partir.
Moi, je le souhaite au Lensois.
Après,
une nouvelle fois, il sera demain soir avec tout. Donc
et puis tu connais la communication des acteurs de football, Gilbert. Ce qu'on dit aujourd'hui, ce n'est pas forcément ce qu'on pense.
C'est pour ça que...
C'est demain, mais...
Après là, s'il s'engage personnellement, ce serait quand même... Enfin, et vocalement, ce serait
On a déjà parlé de ça, mais toi, Gilbert, tu trouverais ça... Tu trouverais pas ça quand même étrange qu'il choisisse d'arrêter maintenant?
Non, mais moi, je souhaite à Lens et aux supporters qui restent. Mais si je suis l'agent de Pierre Sage et qu'il y a, je sais pas, trois clubs anglais qui me contactent, réfléchis.
À la Liam Rosenior.
Ta saison prochaine, pour qu'elle soit mieux que celle-là. C'est compliqué.
Ah bah ça, mais je pense qu'il sera pas jugé.
Impossible.
Oui, d'accord. Je suis d'accord. Mais je pense que
tu vas quand même avoir la Ligue des Champions pour te faire un nom.
L'exposition,
et
exactement.
Et ligne, ah, tu peux aussi la prendre dans la tronche. Hein.
Gilbert, je vais te donner un exemple.
T'es vraiment un Strasbourg.
En termes de gestion de carrière,
toi, tu ferais quoi? T'es vraiment un Strasbourg.
Kevin, arrête, toi qui es un pragmatique. Tu t'es là.
Non, mais là, honnêtement,
t'es dans la peau de Pierre Sage. T'as un club anglais qui t'appelle. Tu dis, les gars, je vous ai laissé
champion,
j'ai gagné la Coupe de France. Je pars comme un seigneur.
Non, mais dans un club comme Lens, j'aurais quand même envie de découvrir cette compétition avec ce stade, avec ce peuple. C'est ce qu'on disait. Moi, je disais ça avant-hier. Pour moi, si Lens, je crois que c'est toi qui disais, si Lens finit
sixième,
et fait un parcours ne serait-ce que cohérent en Ligue des Champions en gagnant trois matchs.
Sa cote, elle aura pas baissé. Surtout, regarde. Eric Roy, sa cote, elle est au plus haut quand il se qualifie en Ligue des Champions ou après le parcours qu'il fait. Pour moi, après le parcours.
Et puis un an plus tard.
Mais après le parcours qu'il fait, sa cote, elle est encore renforcée à Eric Roy.
Mais il suffit qu'il
fait un bon parcours avec quelques coups d'éclat.
Il suffit qu'il perde Sangaré et Gagnou. Là, j'ai vu que d'ailleurs, PSG et Paris Saint-Germain sont intéressés par Gagnou. Thomas, on s'en va. Wesley Saïd, à tout moment, tu sais pas avec
qui. Mais personne ne les attend, en fait, à faire une deuxième place.
Mais non, ça, c'est ce que tu penses. C'est l'équipe dirigeante.
Mais
l'opinion publique.
Après,
l'opinion publique,
elle entend. Mais
non, mais c'est pas le public.
L'opinion publique,
bien sûr. Là, ce serait quoi, de la Championship qu'il appellerait?
Mais non, mais jamais de la
Championship. Non, c'est pas là.
c'est pas la première ligue.
Non, mais attends, la Championship, c'est beau aussi quand même.
Il y a pas d'entraîneur. Là, tu restes à Lens pour jouer à la Championship.
Si tu parles de la Championship,
c'est pas la même chose.
Je vais aller à Bolton.
Non, mais qui vient de remonter en Championship d'ailleurs.
C'est pour ça que j'ai dit, ils ont gagné le barrage.
Ils ont gagné le barrage 4-1 contre Stockport County, absolument.
Ah, magnifique.
Ouais. Ça a bougé en F1. Jean-Luc, que se passe-t-il?
Ah bah, ça n'arrête pas de bouger parce que déjà, il y a un baston extraordinaire entre les deux pilotes Mercedes.
Comment est-ce que Toto laisse faire ça, Jean-Luc?
Bah, c'est bien parce qu'il a dit, écoutez, vous vous battez, je veux pas que vous vous sortiez, c'est tout ce que je vous demande. Non, mais c'est génial. Ça rappelle, tu sais, la saison 2016, la bataille, tu te rappelles, entre Nico Rosberg et Hamilton à l'époque. Hein.
Ah oui.
Qui s'est traduite par le titre de Rosberg. Et Rosberg était tellement épuisé qu'en fin de saison, il a pris sa retraite.
Il a arrêté.
Il était vidé totalement. Et on avait tous pas compris. Moi, le premier, en me disant, mais pourquoi il fait ça? Il a dit, j'ai donné mon meilleur, je peux pas faire mieux. Je l'ai battu, j'arrête. Voilà. Ça m'étonnerait que, quel que soit le champion des deux, là, ça m'étonnerait qu'il arrête. Donc, Toto les laisse jouer. C'est très bien en leur disant, les gars.
C'est Toto Wolff, c'est ça.
C'est Toto Wolff, c'est le patron Mercedes. Non, non, mais c'est fantastique parce que là, vraiment, le Grand Prix est absolument enthousiasmant. Alors, le problème, c'est qu'ils tapent tellement dans les pneus. Ils sont partis un peu soft, hein, je le rappelle. On a déjà fait 20 tours. Normalement, Pirelli préconisait un arrêt entre le 17e et le 23e tour. Donc, on y est, là, à mon avis. On a vu les tentatives d'Antonelli, là, qui a tenté deux attaques vraiment absolument magnifiques. Derrière, on a Verstappen qui s'est emparé de la 3e position après être parti 6e, je le rappelle. Mais il navigue à 5-6 secondes. Hein. Donc, pour le moment, il n'est pas dans le coup, en tout cas, pour la bataille avec les Mercedes. Et puis, on a les deux Ferrari d'Hamilton, qui est pas très loin de Verstappen. Il est à 6 dixièmes seulement. Leclerc est un petit peu plus loin. Alors lui, il a pris du retard. Là, il est à 7 secondes d'Hamilton. Et puis on a Hadjar, 6e, solitaire ou pratiquement. Colapinto, qui fait un très beau parcours avec l'Alpine. Et puis Lawson, 8e. Gasly, 9e, qui est entré dans les points. Et Berman, 10e. Donc c'est plutôt pas mal hein, pour le moment.
À tout à l'heure. Et pendant ce temps-là, rien ne bouge en Italie, comme toujours en Ligue des Champions, et la Juve en Europa League, tout comme Milan, qui sortirait des quatre premiers là en Italie si les scores en restaient là. On aura Daniel Emanoussia tout à l'heure pour faire un petit bilan. À tout de suite avec l'OM au programme. Est-ce que l'OM s'est perdu cette saison dans ses relations avec les médias? On va en parler avec David Guzman. C'est son avis du soir. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Il est 22h39, l'after est là jusqu'à minuit, messieurs, dames, avec Kevin Diaz, David Guzman, Maxime Chalot. Et le direct, c'est d'abord le tennis avec Roland Garros, Eric Salio et Djokovic face à Petchi Péricard.
Oui, Novak Djokovic qui est en train de construire sa qualification. Il a fait le plus dur hein, en égalisant à une manche partout. 7-5 Petchi, 7-5 Djokovic, 4-1 pour le Serbe dans cette troisième manche. Et puis sur le court, Simone Mathieu, Pierre Gerber est à la bagarre face à Sonego. 1-7 partout entre les deux joueurs, mais l'Italien a le break dans le troisième. Et puis c'est fini pour Ksenia Efremova, 17 ans. Elle avait le wildcard, mais bon, elle est encore un peu tendre. Elle a perdu contre Sorana Chirtea.
À tout à l'heure, la F1, qu'est-ce qui se passe, Jean-Luc?
Ah bah c'est fabuleux là entre les deux pilotes Mercedes parce qu'Antonelli avait trouvé l'ouverture, il avait dépassé Russell et là il vient de commettre une erreur au freinage de l'épingle tout au bout du circuit. Les deux hommes sont côte à côte là à plus de 300. Oh là là, on se touche. Ah oui, là on a sorti la hache de guerre là hein, carrément. Donc les deux pilotes se sont frictionnés là à l'amorce de la dernière chicane. On a failli en mettre un dans le mur des champions. Tu sais, c'est le mur que tous les pilotes viennent percuter à leur tour chacun. Et donc là, c'était chaud bouillant. Là, je pense qu'on est en train de dépasser un peu les limites. Bah, tu vois, Gilbert, on le disait, si on les laisse se battre, ces garçons-là, bah, ils demandent que ça. Donc, pour le moment, Antonelli est repassé devant Russell. À mon avis, ça va pas rester comme ça très longtemps. Je rappelle qu'on est au 25e tour et qu'on est toujours en pneumatique soft. Normalement, on aurait dû les changer.
À tout à l'heure. Quant au match en Italie, Ligue des Champions africaines, rien n'a bougé pour le moment. David Glusman veut nous parler de l'OM ce soir. Est-ce qu'on a un jingle, Glusman? Normalement, oui. C'est
parti. Moi, en tant que boulimique de foot, moi, j'ai besoin, je vis foot, je vibre foot. Je pense qu'on m'ouvre les veines, il y a des ballons qui sortent.
Ça m'inquiète toujours un peu, moi. Les mecs qui disent ça, qui ont que ça dans la vie, je trouve ça toujours un peu inquiétant.
Je n'ai pas dit que j'avais que ça.
Je conseille d'aller voir un psy.
J'ai pas dit que j'avais que ça, mais j'ai dit que ça prenait une grande partie de mon esprit.
Ça et les chiffres.
Ouais, je l'ai fait parler les chiffres, mais c'est vrai que ça et les chiffres. Mais oui, non. Alors la communication de l'OM.
pourquoi j'ai tenu à faire cet avis, puisque on a énormément, on a débattu notamment avec Kevin et Max en long, en large et en travers la saison sportive de l'OM. Mais moi, ce qui m'a interloqué depuis le début de saison, et d'ailleurs ça part du documentaire Ne jamais rien lâcher, qui était sur le papier et même le produit fini était excellent, un documentaire pour lancer donc la saison de l'OM qui montrait un peu les coulisses de la saison précédente. Et dans ce documentaire, une fois que je l'ai fini, j'ai été un peu interloqué dans la mesure où je me suis dit, quelle pression ils sont pas en train de se mettre, quel message ils ne sont pas en train d'envoyer. C'est-à-dire que tout le documentaire est tourné d'une autour de la notion d'institution et de deux, il a été monté de façon à ce que les protagonistes principaux, donc Mehdi Benatia et Roberto De Zerbi, soient systématiquement dans l'affrontement, systématiquement dans le virilisme, et il y a un parti pris qui tourne autour de l'autorité, autour de la préservation de l'institution, autour de l'excès de communication qui, mine de rien, allait leur éclater à la figure lors de la première journée de championnat avec l'affaire Rabiot. Et je trouve que toute cette saison qui a été tourné autour de cette notion d'institution, cette notion d'autorité, cette notion de ne jamais rien laisser passer, elle a porté préjudice à l'Olympique de Marseille. C'est-à-dire qu'au moindre écart, la mesure n'était plus du tout de mise, puisque de toute façon, il avait été annoncé que rien n'allait être laissé passer. Et que ça a amené à une surcommunication, à une surjustification des décisions, à un excès d'autoritarisme qui s'est encore témoigné avec les nombreux retiros ou punitions collectives, appelez-les comme vous voulez. Et donc, d'une communication collective initiale, on en est venu à un chacun pour sa peau où tous les protagonistes ont communiqué pour défendre leur bilan. On a vu Mehdi Benatia, notamment dans le dernier podcast d'Aurélien Tchouaméni, Je Bridge, défendre son bilan dans les grandes largeurs. On a vu malheureusement Habib Bey, qui était pourtant prompt et rompu aux méthodes de communication, beaucoup trop tôt défendre son bilan en conférence de presse. On a vu malheureusement un Pablo Longoria, qui lui était hors jeu depuis l'épisode du Tout Corrupt. Et je pense que ça a porté préjudice à l'OM, dans la mesure où, même sur le plan institutionnel, l'OM n'a pas assez joué, n'a pas joué son rôle. Donc moi, ce qui me dérange plus encore que la saison sportive, qui est passable, et le passage de Mehdi Benatia est satisfaisant, c'est le fait que trois excellents communicants, trois personnes compétentes, trois personnes qui sont normalement d'excellents communicants, très pédagogues, se soient enferrés dans une espèce de folie collective qui n'est pas nécessaire à l'Olympique de Marseille, qui est déjà un club extraordinaire de passion, dans une course à l'échalote de communication. Pour complètement perdre le fil. Donc c'est
Vas-y, vous êtes d'accord? Je change juste que Rouli aujourd'hui a expliqué. Beaucoup de choses ont été sur ses réseaux sociaux, ont été dites sur le groupe. Certaines très éloignées de la réalité, des situations qui, au lieu de nous unir, ont créé des bruits inutiles entre nous, ouais. Entre nous et les supporters.
Oui, mais de toute façon.
Dit-il. Ouais. Donc en gros, tout ce qui se dit, voilà, infuser le vestiaire.
Je suis entièrement d'accord avec toi, David. Bon, évidemment, on va pas revenir sur la saison sportive. On en a assez parlé, mais c'est vrai que par rapport à la communication, il y a tout qui a été de travers. Alors, est-ce que ça n'a pas été faussé par une espèce de guerre d'ego entre De Zerbi, entre Mehdi Benatia, entre Habib Bey, entre Pablo Longoria? Enfin, il y a eu quand même des prises de position à un moment donné où c'est vrai qu'il aurait peut-être dû avoir un petit peu de calme. Et c'est en fait la grosse problématique de cette saison. Je me souviens de la sortie de Mehdi Benatia. Encore une fois, Mehdi Benatia, moi, je le trouve très, très intéressant. Je trouve qu'il a énormément de qualité. Sa communication, je suis entièrement, je suis contre sa communication. Je repense évidemment à sa sortie après l'élimination en Champions League contre le club de Bruges à un moment donné où en championnat ça allait encore très bien. Finalement, ça part de là un petit peu quand tu regardes les problèmes sportifs.
Enfin, même d'avant.
En tout cas, c'est à partir de là que ça a commencé à plonger. Après, évidemment, il y a cette défaite en Supercoupe et puis derrière, t'as évidemment la défaite, la déculottée contre le Paris Saint-Germain. Mais tu vois cette prise de position de Mehdi Benatia à un moment donné où justement les joueurs, j'ai été joueur, donc c'est vrai que quand t'as des dirigeants qui calment un petit peu la chose et on fait le parallèle avec Pierre Sage, on l'a dit, à un moment donné où à Lens ça gagnait un peu moins, et ben il est resté là. En fait, c'est le calme dans la tempête. Et ça a été le cas avec Mehdi Benatia qui a fait cette sortie-là. Il y a eu cette sortie après Lorient. Dans le fond, je le répète encore une fois, il avait raison. La forme, elle était catastrophique. Ça a été catastrophique de la part d'Habib Bey, en effet, de justifier son bilan très tôt dans la saison en disant on est arrivé, on était quatrième, maintenant on est troisième. Le problème, c'est que quand ils sont descendus septième, ah ben c'était difficile de défendre son bilan. Et puis bon, après, évidemment, on va pas revenir sur le départ de Zerbi et le départ de Pablo Lucaria. Tout ça pour te dire, pour résumer mon analyse, je pense qu'il y a vraiment eu un problème d'ego cette année. Et si l'Olympique de Marseille veut repartir sur de bonnes bases, des bases saines l'année prochaine, je pense que dans l'équipe dirigeante, il va falloir trouver une symbiose, déjà évidemment sur le terrain entre guillemets, mais surtout dans les médias.
Il y a JP juste sur WhatsApp qui nous dit le problème de l'OM, c'est que chacun joue sa partition en coulisses. D'ailleurs, il dit sur le fameux The Bridge dont j'ai parlé, on retient que la phrase de Benatia sur le PSG, mais il dit que Benatia a aussi expliqué qu'il y a des gens au club qui sont là depuis 20 ans et qui font ce qu'ils veulent et que ça crée des problèmes. Bon, ça c'était le discours qu'il tenait déjà l'an dernier avec Gloria, hein, sur il faut faire le ménage, tout ça. Kevin.
Bah, franchement, la saison de l'OM, je pense qu'elle pourrait être étudiée dans un cas d'une grande université américaine pour la gestion, ou en tout cas le manque de gestion ou la mauvaise gestion du management sportif depuis tout en haut.
Pourquoi une université américaine ? Pourquoi les universités françaises sont pas aussi bien ?
Non, bah parce au classement annuel, je crois que c'est bizarre.
Parce que souvent, ce genre
d'études. C'est une grande université américaine. Comme si, tu sais, les Américains, ils faisaient des trucs.
Mais c'est un Américain, ça, Kevin. Hein, au cœur.
Ouais, un petit peu. Bah, j'étais à l'ambassade la semaine dernière pour mon passeport. Ouais. Moi, demander passeport ou visa? J'ai hésité.
Green card? Green card directement?
J'ai été pour le visa. Mais je pense que aujourd'hui, aujourd'hui c'est attends, je crois que Jean-Luc là
il tape sur la table.
Il y a une Mercedes
non, je me permettrai pas, mais
il y a une Mercedes à qui manque un morceau là.
Malheureusement, oui, c'est George Russell qui a eu un problème mécanique après cette bataille absolument fantastique, hein. J'y reviens pendant les 30 tours et apparemment la Mercedes n'a pas tenu, là il a été obligé d'immobiliser sa monoplace et donc bah voilà, il se met derrière les grillages et il y a une neutralisation virtuelle safety car, on va regrouper.
C'est pas un accident avec Antonelli, hein.
Non, en fait, ils sont frictionné quand même deux fois. Hein. Est-ce que c'est consécutif ou pas? Mais
ça, c'est une addiction, Jean-Pierre Jabouille, ça, non? J'ai l'impression que...
Non, mais pour finir sur l'OM, aujourd'hui, c'est vrai que c'est un cas d'école de ce qu'il ne faut pas faire. Maintenant, je ne suis pas d'accord sur le documentaire. Moi, pour moi, le documentaire, j'avais apprécié suivre ça de l'intérieur. Je remets toujours, et je pense qu'il faut qu'on ait beaucoup d'humilité, parce que j'adore le titre, et je le dis souvent, le titre du documentaire de Luis Enrique, vous ne pouvez pas comprendre. Hein, c'est à peu près ça, là. Je vais pas vous la faire en français parce que c'est un peu plus vulgaire en espagnol, mais en gros c'est une expression qui veut dire ça. Je pense qu'on peut pas vraiment comprendre ce que vivent ces mecs-là avec cette exposition. Moi, je suis directeur sportif d'un petit club amateur et déjà il y a un peu d'exposition, il y a un peu de pression. Alors eux, ils sont dans un monde où forcément ça doit pas être facile de pas perdre les pédales. Moi, je pense que les entraîneurs ne devraient pas parler avant chaque match comme ça et après chaque match.
Ouais, ça fait partie du football.
Ouais, mais pour moi, c'est trop. Aujourd'hui, dans ce genre de club, je l'ai déjà dit la semaine dernière. Alors certains m'ont compris au contraire. Non, je parle pas des conférences de presse, je parle de l'exposition. Je pense que les médias aussi, on peut faire notre autocritique parce que c'est facile de toujours taper sur les clubs, sur les entraîneurs, sur les directeurs sportifs ou les présidents. Mais il y a un moment, aujourd'hui, on juge. Et c'est Daniel qui le disait il y a quelques jours et je suis complètement d'accord avec toi. Nous-mêmes, les supporters, les médias, on continue de juger l'OM comme si c'était encore un vrai prétendant au titre de champion de France. Et aujourd'hui, moi, je le vois dans d'autres pays, hein, je vais pas refaire ma tirade, mais dans beaucoup de grands pays de football, notamment des années 90, que ce soit en Italie, en Turquie, en Écosse, au Portugal, où bah il y a souvent des gros passages à vide de certains clubs, mais notamment parce que l'attente et l'exigence, notamment médiatique ou des supporters, est complètement démesurée par rapport à ce qui se passe en interne au club. Mais c'est difficile, je pense.
Ce qui est surprenant, c'est que il y avait quand même deux parce que Longoria il était hors jeu.
Il était pas hors jeu.
Mais depuis le tout corrupt, en fait, sa voix était inaudible quasiment. Okay. Et en fait, les deux personnages principaux du documentaire, justement, c'était deux personnes qui connaissent quand même l'environnement marseillais. Tu vois, De Zerbi se targue d'avoir appréhendé cette ville, d'avoir appréhendé la folie de cette ville, dans le bon sens du terme, d'avoir appréhendé la passion de cette ville. Et je ne comprends pas la surcommunication quand tu sais à quel point elle peut enflammer. Tu vois, c'est ça que je ne comprends pas. La surcommunication. Est-ce que tu as entendu Andrea Berta, Arsenal, parler autant? Jamais. Ou Goviana, City? Jamais.
Parce que c'était dans juste un instant, on continue le débat avec Florian au 32-16, sans oublier les directs, bien sûr. Parler, on se retrouve tout de suite.
RMC, jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
22h52, tout à l'heure, après 23h, grosse page anglaise, grosse page italienne. Milan a perdu, et donc c'est terminé pour Milan qui ne sera pas en Ligue des Champions. Milan a perdu contre Cagliari, dernière journée de la Serie A ce soir, et du coup, de toute façon assez surprenante, eh bien Milan sort des quatre premiers de la dernière journée, et donc c'est Côme qui jouera en Ligue des Champions la saison prochaine avec la Roma, Naples et l'Inter. Bien sûr, on en parle tout à l'heure avec David Guzman, Kevin Diaz et Maxime Chano. Florian est avec nous, 32-16 supporter de l'OM. Salut Florian.
Bonsoir à tous les gars.
Salut Florian.
Salut Florian.
Est-ce que l'excès, est-ce que les relations avec les médias mal gérés ont coûté cher à l'OM cette saison, ou est-ce que là on se fait des films?
Non, c'est pas de film, mais je suis complètement d'accord avec Kevin avant la pause, ce qu'il a dit. L'OM parle trop, les médias en font énormément, et ça joue contre nous. Ça joue énormément. Le discours de Benatia contre à la fin de Lorient, ben, je suis d'accord sur la forme aussi, mais niveau com, c'est pas ouf.
Alors plutôt sur le fond que sur la forme, non?
Ouais, sur le fond, ouais, sur le fond, je suis d'accord et tout, et sur.
Enfin, le problème, c'est qu'il n'y a jamais de bonne solution, parce que si jamais tu adoptes une stratégie où, en gros, tu dis rien, on va te dire « Ouais, mais c'est le foot, il faut parler, parce qu'il faut que les supporters puissent entendre les acteurs. »
D'un côté, tu
vois, avec Florian...
Vas-y, excuse-moi.
Tu vois ce que je veux dire, Florian, donc c'est...
Oui, non, mais je suis d'accord. Mais
qu'est-ce comme solution idéale? Il n'y en a pas beaucoup.
Il faut arrêter de parler. L'OM, c'est plus un grand club. C'est malheureux, je suis l'OM depuis tout petit, mais c'est plus un grand club. C'est un club lambda pour le moment. Il faut arrêter de parler. Il faut que la nouvelle saison qui arrive, ben on soit discret, on travaille discrètement sur le terrain, et basta.
Moi, excuse-moi Florent, je me permets de rebondir sur ce que tu dis, mais tout le paradoxe de Mehdi Benatia, c'est que depuis le début, son narratif, c'est de dire, moi j'ai connu des grandes institutions et je vais mettre en place les méthodes de ces grandes institutions, ses us et coutumes, à l'échelle de l'Olympique de Marseille. Il finit quand même sa saison dans un podcast qui s'appelle The Bridge d'Aurélien Tchouaméni, où il dit qu'il doit rien à personne, alors que c'est quand même l'OM, qu'il était agent de joueur, qui lui donne un poste, un des postes les plus regardés et les plus convoités du football français, en disant que si Nasser El Khelaïfi l'appelle, il aurait aucun état d'âme à y aller.
Ouais, c'est un peu maladroit, c'est
vrai. Non, mais en fait, il a pas besoin de dire ça. Encore une fois, lui qui dit savoir ce qu'est une institution. Mmh. Est-ce qu'on imagine vraiment le directeur Andrea Berta dire que si Tottenham l'appelle, il aurait aucun problème à y aller? Est-ce qu'on imagine Ugo Viana, le directeur sportif?
Est-ce que Mehdi Benatia, il est formé justement à pouvoir communiquer, à être un bon communicant? C'est peut-être ça aussi le problème.
Non, mais c'est quand même quelqu'un.
C'est un bon communicant.
C'est un bon communicant.
Le seul grand gagnant, en tout cas, de cette année à l'Olympique de Marseille, pour moi, ça pourrait être Mehdi Benatia. C'est le seul qui est resté dans le projet. Alors, certes, il a voulu partir, mais il est quand même resté. Il a fait, tu l'avais dit très justement, off, des transferts rentrants intéressants, des transferts sans intéressants.
Mais il laisse un effectif valorisable.
Un bon agent. Donc, non, par rapport à ça.
Je suis d'accord, moi, en fait, sportivement, c'est très
cohérent. Dans ce marasme sportif de l'Olympique de Marseille, j'ai presque envie de ressortir Mehdi Benatia du chapeau en disant au moins il a été là. Et en disant cette phrase-là, entre guillemets, ça ne me dérangerait pas de rejoindre le Paris Saint-Germain, bah, je trouve qu'il trahit un petit peu ce club de l'Olympique de Marseille.
Mais de toute façon, je pense que notre auditeur sera d'accord avec moi quand je dis qu'aujourd'hui, que ce soit joueur, staff, technique, entraîneur principal, dirigeant, directeur, à part l'actionnaire, il y a un truc qui ne va pas aujourd'hui à l'Olympique de Marseille, c'est la gestion des émotions.
Bien sûr.
La gestion des émotions, c'est aujourd'hui comment tu arrives dans ce contexte ultra bouillant à garder la tête froide, à ne pas répondre lorsqu'il ne faut pas répondre, à ne pas répondre aux provocations, à ne pas répondre aux réseaux sociaux, à ne pas répondre des fois à certaines mauvaises prestations, en tout cas à la communication externe. Tu parles des formations d'entraîneurs, de management. Aujourd'hui, bien sûr que chaque formation d'entraîneur, il y a énormément de management ou de gestionnaire de gestion de projet. À partir du moment où t'es dans un projet quel qu'il soit, que ce soit dans le sport ou ailleurs, tu sais que tu dois arriver à gérer ta communication. La communication interne, c'est une chose, mais la communication externe, c'est primordial.
Mais Kevin, ce qui est surprenant, c'est que ils ont ils sont tous ultra entourés. Ils ont des conseillers en communication.
Là, franchement, David, après, je te laisse finir. Franchement, là, c'est même plus une question de conseiller. Et moi, je suis d'accord avec Maxime. Là, c'est toi-même, en fait.
Mais je suis d'accord.
Là, c'est toi qui. Là, t'as pas un conseiller. C'est toi qui dois gérer tes émotions.
Mais Kevin, je suis complètement d'accord. Mais en fait, ce serait encore plus audible et encore plus entendable s'il y avait personne pour le conseiller. Là, il a quand même. Il avait conscience, à mon avis, de ses failles, de ses lacunes qui sont complètement compréhensibles. Il a ramené Bella Besboissy qui vient du milieu du journalisme.
Après, si tu regardes toutes ces réactions, souvent à chaud.
C'est à chaud,
c'est
bien sûr.
C'est après les matchs. Donc, c'est vrai que Mehdi Benassia, qui a peut-être un tempérament un petit peu justement de sulfureux, entre guillemets, quand il a quelque chose à dire, il le dit. Et c'est là que je te rejoins. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui devrait lui dire, écoute, Mehdi, c'est peut-être pas le moment de parler, attends un jour et tu te positionnes
demain.
Et c'est
une vraie zone d'amélioration. On peut penser qu'avec quelqu'un qui est aussi institutionnel, qui a géré les deniers de l'État comme Stéphane Richard, quelqu'un d'aussi discret, Grégory Lorenzi, peut-être qu'il y aura un changement de cap sur le point de vue de la communication. Et surtout, la folie, elle est intrinsèque à Marseille. Il suffit de se promener boulevard Michelet avant un match pour ne pas être emporté en fait par le.
Il faut retrouver un peu de calme, et c'est vrai qu'à travers la nomination de Greg Lorenzi, on verra qu'ils vont dominer comme
et redevenir peut-être ce qu'ils voulaient être, s'institutionnaliser, utiliser le mot à tout bout de champ, mais s'institutionnaliser
en tout cas,
dans le bon sens
avec
du terme.
Avec beaucoup plus de calme. Par contre, je suis pas d'accord avec vous, messieurs, c'est pas forcément le débat, mais qu'on arrête de dire que l'Olympique de Marseille n'est pas un grand club.
Il va refaire un débat parallèle.
Non, parce que je veux dire, aujourd'hui,
Florian a dit, c'est plus un grand club, c'est ce qu'il a dit.
C'est plus un grand club européen.
Européen. Ouais, bah alors est-ce que l'Olympique de Marseille est mort en club européen?
Allez, point sur les directs. Je remercie Florian qui a fait le 32-16.
Merci,
le 32-16 est toujours ouvert. Si vous voulez dialoguer avec nous, ce serait simple. Hein, 32-16, vous allez tomber sur Valentin ce soir au standard. Et évidemment, Adrien ce soir au standard. Et évidemment, vous serez toujours le bienvenu au 32-16. Vous pouvez nous appeler quand vous voulez. C'est très facile. Que se passe-t-il à Roland-Garros, Eric Sérieux, d'abord, entre Djokovic et Petit Péricard?
2-7-1 pour Novak Djokovic dans cette première night session à Roland-Garros, mais on est à 2h28. Giovanni Petit, qui avait perdu le troisième set 6-1 en seulement 20 minutes, breaké d'entrée de quatrième, et là il est réagi. Il mène 2-1 au quatrième, sans break. Mais donc Djokovic doit encore bosser, entre guillemets, et puis Pierre Garber lui est mené 2-1 par l'Italien Sonego.
La F1, Jean-Luc, où en est-on au Grand Prix du Canada?
Eh bien, nous sommes dans le 38e des 68 tours. Il y a eu, bien sûr, le virtuel safety car tout à l'heure au moment de l'arrêt de la Mercedes, donc de George Russell, le temps de l'évacuer. Évidemment, tous les pilotes qui n'y étaient pas passés se sont rués dans les stands. Donc là, on a chaussé des pneumatiques médium pour les favoris. Donc, Antonelli se retrouve évidemment au commandement avec la Mercedes. Il compte près de 7 secondes d'avance sur Verstappen, qui hérite donc de la deuxième place et qui lui-même compte 5 secondes d'avance sur Lewis Hamilton avec la Ferrari. Et au moment du changement de pneus, eh bien, on a très bien travaillé chez Red Bull, puisque Isaac Hadjar a pris la quatrième place à Charles Leclerc. Donc Charles Leclerc a essayé de le passer à plusieurs reprises. La bataille est intense, hein, entre le pilote français de Red Bull et le pilote monégasque de chez Ferrari. Il y a eu une manœuvre un tout petit peu limite tout à l'heure, je pense qu'on entendra reparler, parce que à la radio également, Charles Leclerc s'est plaint effectivement qu'il ait changé deux fois de trajectoire dans la ligne droite. Ensuite, on a Colapinto avec l'Alpine qui est sixième, excellent sixième. Lawson, septième, avec des pneumatiques soft. Et puis Norris, enfin on retrouve une McLaren, tu sais qu'elles avaient fait 7 erreurs de pneumatiques au départ, arrêtées donc dès le deuxième tour pour mettre des pneumatiques médium. Eh bien, on ne s'est pas arrêté, Norris est remonté au 8e rang devant Gasly qui est dans les points 9e, et Sainz 10e, Ocon pour sa part est 15e.
À tout à l'heure, Angleterre, Italie au programme dans quelques instants dans l'After. On se retrouve tout de suite.
RMC, l'After Foot.